règles. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous savons que tu es là. Tu dis que lorsque deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous savons que tu es là pour nous ce matin. Et c'est pourquoi nous voulons ouvrir tout grand notre cœur. Et nous voulons te laisser parler à notre cœur. Seigneur, tu sais que nous avons besoin de toi. Toi-même, tu l'as dit, sans toi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Amen. Oh, ça va bien?
Ouais, vous allez voir tous mes secrets, là.
Pelote de soucis. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté ce matin, mais on ne s'est pas concerté avec ceux qui ont conduit la louange et les chants. Mais il y avait un peu ce sentiment de ce que Dieu voulait faire quelque chose. Qu'il était là, qu'il était au milieu de nous. Et vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est absolument étonnant la façon dont notre quiétude dans la vie de tous les jours peut être facilement interrompu ou perturbé. Un jour, tout va bien, et là, oh Seigneur, que tu es bon, vos culs, ça baigne. Et du jour au lendemain, il se passe des choses. Tantôt dans la famille, tantôt des choses matérielles, tantôt financières, tantôt des choses pas très graves, mais qui nous empoisonnent. Genre des petites épines sous nos pieds, c'est pas grand-chose, ça va pas nous tuer. Mais c'est galère. Il y a deux semaines, je pars au travail, évidemment, quand je pars au travail, je chante, je prie, normal, quoi, comme vous. Et la voiture, elle commence à faire comme... Oh non, ah non, c'est pas possible. Et elle s'est arrêtée. Et vous savez, un mardi, là, c'était la journée la plus froide de la... Enfin, on y avait moins 2, moins 3, moins 5, et bien c'est ce jour-là, tu vois, comme par hasard. Le lendemain, il y avait plus 10, un jour avant, il y avait plus 10, mais là, il y avait... Et donc, j'étais là dans le froid, c'est Jérémy qui est venu me chercher, enfin, la grosse galère. Et vous savez, la dernière fois que j'ai eu un problème de voiture... ça ne m'a rien coûté du tout parce que je ne l'ai pas fait réparer, mais on m'a annoncé 4500 balles. 500 euros, pardon. Ça m'a échappé. 4500 euros, on n'a pas pu payer, il fallait racheter une voiture. Et là, imaginez-vous, la voiture s'arrête. Je pense à quoi? Ça va être le calculateur, ça va être la pompe à injection, enfin le truc qu'on ne peut pas changer, la voiture est trop vieille et on ne peut pas racheter une voiture. Seigneur, je vous rassure, c'était moins grave que ça. C'était une toute petite pompe de rien du tout qui m'a coûté une blinde quand même. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand bien même la vie, tout va bien, rapidement, il y a des nuages qui peuvent venir, et vous l'avez expérimenté, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sous des nuages, mais honnêtement, ça nous empoisonne. En même temps, je vais en profiter pour vous donner des nouvelles de l'Église, et je vais glisser dans le message, mais incongru, Seigneur, on prie, on veut un terrain, etc., le Seigneur ouvre les portes, on a la faveur du maire, c'est le banquier qui nous appelle pour dire, bon les gars, on vous débloque quand l'argent, on débloque quand, enfin, du jamais vu, là on est sur le point de signer, tout le monde est content, et le notaire nous dit, hey, il manque un papier, il y a 30 ans, c'était qui le propriétaire du terrain, enfin, un truc qui vient de nulle part, et évidemment, la mairie cherche dans tous ses registres, ils n'ont pas le papier. Et donc, ben on attend, tant qu'on n'a pas le papier, on se dit, non mais ça, c'est, il y a toujours quelque chose. Toujours, 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 toujours. Vous sentez, ah, ah ouais. Et évidemment, enfin, quand on est avec alors, si vous êtes comme moi, vous parlez de Dieu aux gens, alors il y en a qui croient pas, mais en tout cas, ils écoutent et ils vous le ressortent toujours et ils disent toujours, mais, oh mais pour toi, Didier... Tout, je dirais toujours bien, parce que il y en a un qui veille sur toi. C'est un petit peu, pas tout à fait comme ça quand même. Ça peut être perturbant. Et je suis sûr que toi, aussi, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, où tout va bien, on s'applique parce qu'on aime le Seigneur, on élève nos enfants, et il nous arrive des tuiles. Mais des trucs qu'on ne voit pas venir. Ça peut être au boulot, j'en ai parlé. Ça peut être la voiture, ça peut être dans la famille, ça peut être les enfants, ça peut être la femme. Non, ça peut être là, jamais la femme. Ça peut être le mari. Ouais, c'est le mari. Je prends vraiment ma part de responsabilité là-dedans. Et on a presque envie de dire ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait au... Je vous rassure, on lui a rien fait. Enfin, quand bien même on lui ferait quelque chose, c'est pas ça qui... Blague à part, je pense qu'il faut quand même qu'on se pose la question. Parce que ce qu'on sait, c'est que de toute façon, Dieu n'est pas ignorant des choses qui nous arrivent. Que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, je peux te dire que Dieu sait exactement ce que tu vis. Et ce que tu vis l'intéresse, vraiment. Et quelquefois, pour ne pas dire tout le temps, mais Dieu pourrait, tout le temps, Dieu pourrait éviter que les choses nous arrivent, et on le sait. Les gens même qui ne connaissent pas Dieu, à qui on dit qu'on connaît Dieu, qu'on sert Dieu, qu'on adore Dieu, ils nous disent effectivement, si Dieu existe, d'accord, c'est une supposition, mais dans l'éventualité qu'il existe, si vraiment tu l'aimes comme tu dis que tu l'aimes et il t'aime comme tu dis qu'il t'aime, ben pour toi ça roule. Ou ça devrait rouler. Et la réalité, elle est un peu différente. Alors, je crois qu'on doit vraiment se poser la question. Alors quelques-uns, peut-être les plus spirituels ou les moins spirituels, j'en sais rien, diraient, de toute façon, la vie, une définition de la vie, c'est une somme de problèmes. De toute façon, Dieu ne donne pas plus qu'on peut supporter, mais c'est quand même une somme de problèmes qu'on va avoir, et quoi qu'on fasse, on les aura, il faut passer la vie comme ça, et puis voilà. D'accord ? On les résout, et puis on va de l'avant. Mais j'aimerais vous dire quand même que Dieu laisse ces choses nous arriver, elles ont vraiment un but. Et je crois que nous, les chrétiens, pour deux raisons, et on va le voir tout à l'heure, nous pouvons passer à côté de quelque chose. Parce que toutes ces petites épines qui sont là, qui viennent, que Dieu sait, Dieu permet qu'elles arrivent jusqu'à nous, en vrai, elles ont un but. Et pour qu'elles accomplissent leur but, nous devons déjà les comprendre. Et nous devons être dans une certaine attitude. Et nous devons savoir pourquoi elles sont là. Et en tant que chrétiens, souvent, nous avons une mauvaise idée de pourquoi elles sont là, et donc elles n'atteignent pas leur but. On va déjà voir comment est-ce que Dieu fonctionne avec les hommes. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte, on va prendre, alors tout le monde a vu le prince d'Égypte, je passe par là parce qu'on a au moins vu le dessin animé. Si je vous fais l'histoire courte, alors le prince d'Égypte c'est les Moïse, pour ceux qui ne savent pas. Dieu, à un moment donné, il s'est dit, ok, il y a un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël qui est, pas prisonnier, mais presque, il est esclave, c'est encore pire, esclave d'un autre peuple, des Égyptiens. Et Dieu dit, ok, je vais envoyer quelqu'un qui s'appelle... Vous m'inquiétez là. Dieu appelle quelqu'un du buisson ardent et il lui dit, il appelle Moïse, ok. Il appelle Moïse du buisson ardent, écoute Moïse, tu vas là-bas, t'inquiète pas. Et il annonce la couleur, Dieu, il lui dit, écoute, tu vas aller voir Pharaon, mais je te dis tout de suite, Pharaon ne sera pas d'accord. Donc déjà, Moïse il pourrait dire, attends, tu m'envoies voir Pharaon, pourquoi tu ne touches pas le cœur de Pharaon pour qu'il soit d'accord? Non, Dieu lui dit, je vais toucher le cœur de Pharaon pour qu'il ne soit pas d'accord. Vous savez, des fois, on lit la Bible, on se dit, on lit, mais c'est quand même bizarre quand même. Vous imaginez, je vous dis, écoutez, toi, ma voiture, elle est au garage, parce que j'ai une petite panne, va la chercher, mais le garagiste, il ne va pas te la donner. C'est ça. Va voir Pharaon. Alors, vous connaissez l'histoire. Il y va. Au bout de 10 fois, il y a eu les plaies, etc. Mais on voit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il dise non. Parce qu'il dit non, Dieu va faire un bras de fer avec lui. Il va envoyer une plaie, deux plaies, pour que ceux qu'il est en train de délivrer puissent voir combien Dieu est grand contre ce Pharaon qui dit non. C'est ça le but de Dieu, quelque part. Donc, il y a toujours un but derrière lequel... J'imagine la première fois, Moïse, il y va, oh là là. Et puis Pharaon qui dit, reviens plus devant ma face. Et Israël qui dit, ah, regarde, c'est Dieu qui l'envoie. Mais Dieu a un but dans tout ça. Et donc ça continue, je fais l'histoire courte parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais quand il a tué tous les nouveau-nés, Pharaon a dit, écoute, ton Dieu, c'est vraiment Dieu, va-t'en toi, les Israélites, et tout ce que vous voulez, tout ce que vous prenez, vous partez. Dieu endurcit encore son cœur, et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai laissés partir. Mais il faut qu'on aille les rechercher. Et il prend toute son armée pour aller les chercher. Vous lirez ça, hein. Là on est dans Exode 14. Et là il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dieu parle à Moïse et il dit, Moïse, écoute, j'ai un problème. Parce que là on est parti, bon, je te dis, le Pharaon et toute son armée, ils viennent. Hein. Mais tranquille, je sais ce que je fais. Si jamais on part par les montagnes, il y a plein de peuples à traverser. Les anciens esclaves, ils vont perdre confiance, ils vont avoir peur. C'est pas que je ne peux pas les aider, mais ils n'auront pas confiance, donc ça ne va pas le faire. Ce qu'on va faire, tu vas vers la mer. Il y a vraiment cette discussion entre Dieu et Moïse. Il dit, va vers la mer, et puis bon, vers la mer, t'inquiète, je me débrouillerai. Vous connaissez l'histoire. Sauf que les Israélites voient Pharaon et toute sa bande arriver, et de l'autre côté, ils voient la mer. Moïse, tu as fait quoi? Et Moïse dit, tranquille les gars, si Dieu m'a dit d'aller là, il y a un truc. Et Dieu lui dit, ok, lève ton bâton, ouvre la mer s'ouvre, oh, ils passent, vous connaissez l'histoire. Ils sortent de là, et là, j'imagine les Israélites, oh là 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 là, ce Dieu, mais waouh, en plus il est avec nous, il a flingué tous les... Et donc ils sortent de là, texto, enfin, il n'y a pas tous les effets, mais ça devait être comme ça. Et imaginez-vous, ouais, Dieu a flingué les pharaons. Et ils ont fait des chants, et ils ont chanté, ils avancent, ils chantent, ils truquent, ils ont des gourdes pleines, ils ont à manger, ils ont des bœufs, des trucs, ils ont tout ce qu'il faut, tout va bien. Et Dieu les conduit, la colonne de fumée, la colonne de feu, la nuit, waouh, Dieu, oh, vous imaginez, là ils faisaient des cultes, c'était waouh. Et donc ils arrivent au désert, et là c'est ce qu'on va lire. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, qu'ils ont traversée. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche, 3 petites journées dans le désert, ne trouvèrent point d'eau. Oh, entre nous. C'est une bagatelle ce truc. Point d'eau. 10 plaies, les pharaons, la mer ouverte, 10 plaies. Donc, après, ils trouvent de l'eau quand même. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Sympa Dieu quand même. Ils trouvent de l'eau finalement, mais l'eau, elle est amère. Évidemment, il a ouvert la mer, Dieu, machin. Donc, le peuple remercia Moïse de les avoir conduits jusque-là. Et il est dit, pour l'eau, t'inquiète, l'Éternel pourvoira. Il n'y a vraiment pas de problème après tout ce qu'il a fait. Bon, il y en a quand même un qui fronce les sourcils. Ça, c'est moi, hein, c'est pas la Bible. Hein. Je pensais que j'aurais une autre réaction quand même. Mais vous avez raison, parce que c'est exactement ce qu'ils auraient dû dire. Oh Moïse, après ce que Dieu a fait quand même. Écoute, on va prier, puis... Eh ben non, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ?» Ils avaient déjà oublié ce qui s'était passé. Oula. Et Moïse, il cria à l'Éternel. Dans ce mot « cria », c'est... Il pria, il intercéda avec toutes ses forces, tous ses... Voilà, bref. Et Dieu lui indiqua, naturellement, parce que Dieu, il y a toujours la solution. Écoute, tu vas prendre un bout de bois, là, tu jettes dans l'eau, et l'eau devint douce. Enfin, pas besoin de casser 4 pattes à un canard pour... Non, mais on est... Ouais, 3, pardon. C'est vrai que déjà 2, c'est compliqué. Mais quand on lit ça, on se dit, mais quand même, 3 jours seulement. 3 jours. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il les mirent à l'épreuve. Le peuple, voilà. Alors, il est important ce mot épreuve, parce que c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu aurait très bien pu, ok, vous sortez, vous avez de l'eau, tac, parce que la plaisanterie, elle continue. Hein. Vous le lirez à la maison, là on est chapitre 15, qu'est-ce qui se passe? Ils boivent, ils sont contents, oh, super, on a bu, oh. Ils avancent encore un peu, et ils disent, ouais, mais on a faim. Mais Moïse, c'est quoi ce truc? Nous, on préférait l'Égypte, hein, il y avait à manger là-bas. Qu'est-ce qu'on... C'est un truc de fou. Et Moïse retourne. Alors, Moïse, c'est voilà, il retourne vers Dieu. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Écoute, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu leur dit, écoute, t'inquiète pas, il va pleuvoir de la manne, vous allez manger. Donc les gars, ils ont mangé de la manne. Et après, ils ont fait, ouais, mais il n'y a pas de viande. Dans le sandwich, il n'y a pas de viande. Et Dieu leur dit, ok, demain, vous verrez, il y aura des cailles. Enfin, on en rigole, mais c'est pathétique quand même. Cette relation des Israélites avec Dieu. Bref, un petit peu plus loin, l'Éternel parle à Moïse, et là, il ouvre son cœur, il lui dit un petit peu ce qui se passe, il dit, voilà, je ferai pleuvoir sur vous le pain, donc la manne du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera. Alors, il donne des règles, et afin que je le mette, le peuple, à l'épreuve, et que je vois, s'il marchera ou non selon mes lois. On voit que derrière tout ça, Dieu a un plan. Alors, je vous rappelle, ils étaient esclaves en Égypte. Et le but de Dieu, c'était de les sortir de là. Vous avez vu la quantité de lois que Dieu va leur donner. Il leur a donné plein de lois, mais c'est des lois qui régissent, en fait, l'humanité. Vous savez que dans les codes civils, dans les codes de loi, beaucoup de ces lois qui ont été données dans Lévitique, enfin bref, dans les premiers livres de la Bible, se retrouvent dans notre constitution. Tu ne tueras point, ça n'existait pas avant. Et là, Dieu fixe les règles, pas seulement pour Israël, mais du coup, ces règles vont aller jusque dans pratiquement toutes les nations du monde. Et ces règles s'appliquent parce que ce sont de bonnes règles pour les relations entre êtres humains. Dieu avait quelque chose de très précis à faire et il voulait s'assurer que les enfants d'Israël allaient être des personnes qui allaient respecter ce que lui allait dire. Donc il les mettait à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on a faim, qu'on a soif, qu'on a un besoin, qu'on est en difficulté, qu'on se sent dans l'insécurité, eh bien là on est attentif à Dieu. Et là, Dieu peut dire quelque chose. Et là, quand il dit, on écoute. Et puis après on retourne dans nos trucs et puis on oublie, encore une petite épreuve. Eh, mais c'est vrai, Dieu, ma voiture en panne. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il... Et là on retourne vers Dieu. Je priais moi quand il tombe en panne. Enfin, je ne me rappelle même plus, mais je sais. Mais Dieu sait qu'il a notre attention lorsqu'on est en difficulté. Dieu a toute ton attention quand tu es en difficulté. Peut-être que souvent, lorsque tu n'es pas en difficulté, Dieu a quand même ton attention. Tu as des temps de prière avec lui, tu lui parles, tu es attentif, Seigneur, parle-moi, etc. Mais vous et moi, lorsqu'on a vraiment une tuile, je ne sais pas pourquoi, mais nos temps de prière sont plus longs, nos temps de jeûne sont plus longs, nos temps dans la journée où on pense à Dieu, on cherche une solution, sont plus longs, notre consécration est plus profonde. C'est bizarre, c'est étonnant, mais c'est comme ça, et Dieu le sait. Alors, jusque-là, je ne vous apprends rien du tout. Vous savez que nous, souvent, lorsqu'on a une tuile, vu qu'on connaît l'Ancien Testament, eh ben on réagit comme ça. Il y a sûrement quelque chose que je ne fais pas bien. Il y a sûrement quelque chose à faire. N'est-ce pas? On règle plein de choses dans nos vies, on relit la Bible pour voir si on n'a pas raté un commandement. On parle avec les autres, et puis on se surveille, on regarde, on demande pardon, évidemment, parce que... Hein, parce que si ça ne va pas quelque part, c'est qu'on n'a pas respecté quelques règles. Et Dieu nous met à l'épreuve pour voir si on marche selon sa loi. Et ça, c'est quelque part ancré chez nous. Vous me suivez? Vous vous retrouvez dans ce que je dis? Si vous vous retrouvez, faites ça. Vous vous retrouvez dans ce que je dis?
Oui.
Ok. Ben, vous avez tort. Alors, on va regarder un petit peu quelque chose. Vous savez que nous ne sommes pas régis par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous apporte un certain nombre d'informations. Par exemple, l'information intéressante, c'est que Dieu sait que lorsqu'on est en difficulté, il a notre attention. Ça ne veut pas forcément dire que c'est parce qu'il veut qu'on marche selon ses lois. Enfin, mais en tout cas, ça c'est l'information qu'on a. À un moment donné, Jésus, il se trouve devant une foule qui avait faim. Et la foule, il n'y avait rien à manger. Il a dit à ses disciples, ok, 3 pains, 2 poissons, vous connaissez l'histoire, il nourrit tout le monde, il y avait 5000, bref. Et après, donc, Jésus, il s'éclipse, il part, volontairement. Et il y en a qui le cherchaient, il le retrouve. Et Jésus, il les regarde, il leur dit, mais... D'ailleurs, on va le lire. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Vous avez déjà lu ce passage? Vous savez ce qu'il leur dit, Jésus, là? Il leur dit, mais en fait, la seule chose qui vous intéressait, c'est que vous étiez dans une galère et vous aviez faim. Et je vous ai nourri. Mais ce qui me surprend, c'est que ce qui a attiré votre attention, c'est le fait que vous avez mangé. C'est pour ça que vous revenez. Mais vous ne revenez pas parce que, en fait, Dieu a fait quelque chose pour vous. Vous comprenez la différence? Et Jésus les interpelle là-dessus. Il y a des versions où il dit « Dieu ne leur faisait pas confiance à cause de ça. » Parce que le seul motif, j'ai faim, je suis malade, j'ai besoin d'argent, il me manque ci, il me manque ça, ah je l'ai, super, alléluia. Et Jésus leur dit « Non, non, non. » C'est pas le seul fait d'avoir mangé, mais c'est d'où vient ce pain? Pourquoi il n'y en a pas un seul qui me dit « Mais hé, comment t'as fait ça? Je veux pas le pain, mais ce que t'as, je le veux. Pourquoi ? » Et toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu cherches ? À aller mieux ? À manger ? Ou plutôt, ce qu'il y a derrière ? C'est important, c'est très, très important. Et d'ailleurs, Jésus leur dit, ne travaillez pas, ou travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière le miracle et le pain. Et le fils de... Je vais dire, pour la vie éternelle. Et le fils de l'homme... Non, ok. Et que le fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Arrête de lire plusieurs versions. De son sceau. Et là, donc, ils sont sentis interpellés. Pas qu'ils sont devenus spirituels. Hein. Mais là, ils se sont sentis interpellés parce que dit Jésus, ouais, c'est vrai, j'ai pensé qu'à mon ventre. Ce gars-là, peut-être qu'il a quelque chose de Dieu. Et donc, pour le mettre à l'épreuve quelque part, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ah ouais. La suite du discours, ils vont parler justement de la manne et du pain qui est descendu du ciel. Mais quelque part, ce sont des Israélites, ils doivent faire quelque chose. Ok, t'es Dieu, t'es là, alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi tes commandements? C'est quoi tes... Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, Jésus, vous connaissez la réponse pour plusieurs d'entre vous. Mais Jésus, ce qu'il leur dit, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est uniquement que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce qui vous arrive, tout ce qui peut vous arriver, n'a qu'un but, celui de vous emmener à croire davantage en Jésus. Je sais que souvent, lorsque nous avons un problème, ce que nous voulons, c'est la solution. Disons-nous bien que lorsque nous voulons la solution, nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont pensé qu'à manger. Jésus, ce qu'il souhaite, c'est qu'on lui fasse davantage confiance. C'était ridicule le coup des Israélites. Après tout ce que Dieu a fait pour eux, et il leur manque un verre d'eau, et les mecs ils partent en vrille. Dieu leur donne le pain qui vient du ciel, et ils partent en vrille parce qu'ils n'ont pas de pain. Quand on lit ça, on se dit quand même, ils exagèrent. Vous vous imaginez tous ceux qui sont partis avant nous? Parce que la Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. La Bible nous parle aussi que les anges nous regardent. D'accord? L'apôtre Paul nous regarde. Tout le monde nous regarde. En fait, vous pensez, tout le monde nous regarde. Et lorsqu'on a un petit bobo, une petite tuile, on commence à... Vous imaginez tous ceux qui nous regardent, ce qu'ils pensent? Où le médecin nous dit, oh, écoute, là, ça va pas, oh là là, catastrophe. Et nous, on commence à pleurer, oh, Seigneur, ou un problème financier, ou un enfant qui part en vrille, ou peu importe, j'en sais rien, ou le fait qu'il nous manque un papier, et toute l'église, ah, il nous manque un papier, il nous manque un papier. Vous imaginez pas les témoins, Paul, les anges, on se dit, hey, les gars, Jésus est là. Faites pas comme les disciples dans la tempête. On va mourir. Il n'y en a pas un qui peut réveiller Jésus là pour lui dire qu'on va mourir. Et Jésus, quand il se réveille, il fait ah, mais les gars, mais je suis là. Vous êtes encore sans foi. Vous ne croyez toujours pas que je peux faire tout. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Ton Père Céleste sait tout ce dont tu as besoin. Pas un seul cheveu ne tombe sans qu'il ne le sache. Crois seulement. Et toute cette huile qui t'arrive, c'est pour le perfectionnement de ta foi. Je veux que tu croies davantage en moi. Donc quand il y a une huile, mon seul but, c'est que tu fixes tes yeux sur moi et que tu regardes comment je te sors de là. Jésus marchait sur terre. Tiens, il y a un aveugle. Les disciples, que ben, ouais, mais c'est son père, sa mère qui est escapé. Jésus dit, arrêtez les gars, arrêtez. Le seul but, c'est que ces gens-là puissent voir que Dieu existe. Hein? Et il guérit le... Toutes les tuiles dans ta vie, au lieu de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, non. On peut aussi se dire, c'est une opportunité pour Dieu de me montrer qu'il m'aime, qu'il est avec moi. Vous savez, ça change tout. Seigneur, j'ai compris. Ou Satan, ah, le diable, tu voulais me faire des misères. Ah, écoute, cette misère que tu es en train de me faire, ça sera une occasion pour que Dieu puisse se glorifier. Parce que je vais croire en lui. Je ne vais pas m'inquiéter pour la situation. Je ne vais pas avoir peur parce que je sais que la crainte, c'est l'opposé de la foi. Si vraiment j'ai confiance en Dieu, alors je n'aurai pas peur. Quand j'ai peur, ça me montre juste que je n'ai pas suffisamment confiance en Dieu. Donc on bannit la crainte et on regarde vers Jésus et on se laisse remplir la confiance en lui et de la foi. Il n'y a aucune épreuve qui vient jusqu'à nous que Dieu ne sache et elle ne vient pas pour nous détruire parce que Jésus a dit, celui, mon Père, est plus grand que tous et nul ne pourra vous ravir de ma main parce que je suis le bon berger. Je sais tout sur toi. Je savais tout sur les Israélites. Je savais que l'eau était amère. Je savais aussi qu'il y avait le bout de bois pour qu'elle soit plus amère. Et si Moïse n'était pas venu me voir parce qu'il lui avait confiance en moi, ils seraient tous morts avec l'eau amère. Jésus souhaite que nous croire en quoi? Déjà, ce qui ferait une énorme différence, c'est si nous pouvions croire ces paroles de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Rien que celle-là. Je suis avec toi tous les jours, où que tu ailles, quoi que tu fasses, je suis avec toi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, ayez confiance en moi. Évidemment, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Ne vous inquiétez de rien, parce que je sais tout ce dont vous avez besoin. Cherchez juste le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Comprenons que chaque fois que nous nous enfermons dans nos soucis, dans nos problèmes, à essayer de les résoudre tout seuls, nous excluons Dieu et nous enlevons la solution. Et le pire, c'est que nous cherchons juste à nous remplir le ventre comme ces gars, sans avoir, pas le but, le miraculeux qui est derrière. Et ça nous arrive de même pas l'avoir. Le but de Dieu, dans toutes ces choses, c'est de nous montrer combien il nous aime, combien nous sommes importants pour lui. Et si seulement, soit dans l'épreuve dans laquelle nous sommes, ou c'est l'avenir, parce que si j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y en aura. Encore, encore et encore. Et chaque fois qu'elles arrivent, c'est pour que nous puissions avoir une plus grande confiance en Jésus, qui est là avec nous tous les jours. Et c'est important. Les êtres humains, qu'ils soient croyants, qu'ils soient non-croyants, à partir du moment où un de leurs besoins rencontre la fidélité de Dieu, il se passe quelque chose d'indélébile. Indélébile. Et notre croissance dans la connaissance de Dieu, dans la confiance en Dieu, passe par des moments où nous voyons Dieu agir précisément dans notre vie. Et pour que ça se passe, il faut qu'il y ait un besoin. Et ce besoin, c'est une tuile, c'est un petit bobo, c'est une circonstance fâcheuse, c'est une grosse difficulté, peu importe. Et plus grosse est la difficulté, plus on comprendra que notre Dieu est grand et qu'il nous aime. Non, je cherche à voir s'il y en a tant. Il est là-haut, sûr, il n'entend rien. Avec Nathan, on essaie de le serrer de près. Et en arrivant aujourd'hui, il me dit, papa, je sais que Dieu, il existe. Oh, ouais. Il y a 2 semaines, il m'a dit, papa, je ne suis pas croyant. Donc, pourquoi tu me demandes de rester là si je ne suis pas croyant? Il dit, oui, parce que j'ai demandé un truc à Dieu. Et il l'a fait. Mais il me dit, papa, je ne te l'avais pas dit, mais c'était déjà arrivé avant. J'ai demandé, et Dieu a fait. Et il est vraiment sincère dans ce qu'il dit. Ça, dans ta vie, tu as vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu l'as vu une fois que tu vas vivre continuellement avec le fait. Parce que regarde les Israélites. On a besoin constamment de mise à jour, de savoir que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous. Et vous savez aussi pourquoi c'est important. C'est important pour nous. C'est très important pour nous. Mais c'est aussi important pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce que Jésus a fait partout et tout le temps, c'est des miracles. Mais les miracles, c'est quoi en fait? Jésus, c'est grandiose, c'est les paralysés. Ouais, ok, pas de problème. Il a dit, on peut le faire, j'en doute pas, on n'en est pas là. Mais vous savez, une simple personne à qui vous dites, hey, si t'as un souci, je vois bien, je vais rentrer chez moi avec ma femme et mes enfants, on va prier pour toi. Ouais, vas-y, prie. Mais quand elle vient 2 semaines après ou une semaine après en vous disant, hey, tu sais que mon problème, il a été réglé. Alors, il y en a qui disent que c'est le hasard, mais ça vous est déjà arrivé aussi. J'aimerais vraiment vous encourager à le faire de plus en plus en plus en plus. Parce que aussi, lorsque vous allez voir la fidélité de Dieu dans la vie de ceux pour qui vous priez, je vous dis que souvent, c'est plus facile de prier pour les problèmes des autres parce qu'on n'a pas le poids émotionnel qu'on a sur les nôtres. Mais quand on voit la fidélité de Dieu dans les besoins des autres, ça aussi, ça fait grandir notre. Vous savez, il m'est arrivé un truc cette semaine, j'étais avec Jérémy. En fait, on voulait acheter un canapé, et je tombe, oh là, un canapé. Et j'appelle la dame, elle me dit, oh, venez le chercher maintenant, parce que demain, je pars à l'hôpital. Comment ça, je pars à l'hôpital? Et donc, du coup, on parle, et puis elle me dit, oh non, j'ai plein de problèmes de santé, tout ça. Donc, par texto, c'est au départ. Donc, je texto, et puis j'ai écrit, bon, ben, je vais prier pour vous. Pff, Didier, tu ne peux pas écrire ça? J'ai effacé. Non, tu ne la connais pas, elle va croire que tu es un terroriste. Mais vraiment, dans mon cœur, j'ai dit, ok, je vais prier pour vous. Elle répond tout de suite, ah, merci, j'en ai vraiment beaucoup besoin. Ah, j'ai fait, oh. Et du coup, elle est ressortie de l'hôpital, elle n'a pas été opérée encore. Elle est ressortie, avec Jérémy, on a été chercher le canapé, donc on l'a vu. Ah. Elle m'a inscrit sur son WhatsApp des gens qui la suivent. Oh, merci, monsieur. Vous avez...
On va voir la suite. On va voir la suite.
Il y a des gens au travail qui vous partagent des difficultés. Ah, moi j'ai telle difficulté avec mon enfant. Dites-lui, écoute, si tu veux, je vais prier pour vous. Vous serez surpris.
Il y avait une boîte en bois la dernière fois. Maintenant, elle est en plexi. Mais la boîte en bois, elle a été faite par un menuisier.
Et il m'a demandé, mais c'est quoi cette boîte? Je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, c'est une boîte dans laquelle les gens de l'église, s'ils ont des besoins, ils vont écrire leurs besoins, ils vont mettre dans la boîte. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait la boîte, il a pris un papier, il a écrit, et il l'a mis dans la boîte. Une erreur.
Nous avons tous besoin de voir Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui nous envoie.
Vous savez, quoi que nous vivions, il y en a peut-être qui se disent, oui, mais si jamais j'ai une difficulté dans ma vie, c'est peut-être parce que j'ai péché. Alors crois en Jésus. Va vers lui. Crois qu'il t'accepte. Crois qu'il t'aime malgré tous ces affreux péchés que tu fais. Tu peux aller le voir. Et tu vas expérimenter sa consolation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos.
Si seulement nous pouvions croire combien Dieu nous aime, combien nous sommes importants pour lui, combien nos petits bobos sont importants pour lui.
Je vais encore insister là-dessus. Lorsque nous avons un souci, nous pensons que c'est parce que nous avons fait quelque chose de mal. Et on cherche à régler notre vie. Lorsque nous avons un souci, disons-nous que Jésus souhaite qu'on croie en lui. Que lui qui est à côté de nous souhaite changer la situation alors qu'on va lui faire confiance. C'est ça qu'il faut croire. Ça change.
Je vous invite à vous lever, à terminer les musiciens, s'il vous plaît.
Oui.
On va chanter un très, très vieux chant qui dit, les paroles sont très simples, « Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je le connais par cœur d'ailleurs. » Je crois qu'il a payé pour tous. Oui, je crois qu'il est là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, nous pardonne.
Approprions-nous les paroles de ce chant. Certains d'entre nous, nous vivons des choses difficiles. Nous avons besoin de croire que Jésus est là, que Jésus est chez nous, que Jésus connaît la situation, que Jésus a un but. Mais son premier but, c'est que la foi puisse grandir dans notre cœur, que la confiance en Dieu soit vraiment solide. Quelles que soient les mauvaises nouvelles qu'on ait pu nous apprendre. Et Jésus a dit, mais de toute façon, les gars, les filles, avec vos inquiétudes, mais qu'est-ce que ça change?
Oh, Jésus. Wow! Tout est par grâce, n'est-ce pas? C'est bon de savoir qu'on n'a rien à faire, parce que Dieu nous a déjà tout pardonné. Dieu nous a déjà tout donné. Qu'on puisse lui faire confiance cette semaine. C'est mon message pour toi cette semaine. Merci pour cette bonne parole. Ça nous encourage, ça nous fortifie. Ça nous aide à aller de l'avant. Si tu es là pour la première fois, vraiment que si tu as des questions, si tu as des interrogations ou tu veux en savoir un petit peu plus, écoute, je t'invite à aller à une table, au fond, une table d'accueil. Et il y a une personne qui sera là pour toi, pour te donner quelques conseils, peut-être pour te diriger, peut-être vers le pasteur ou l'adjoint Gaëtan. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne semaine. Prenez cette parole dans votre cœur. Faites confiance à Dieu. Continuez à lui faire confiance. Et dans les groupes de maisons respectifs, qu'on puisse débattre de ça, qu'on puisse apporter ce qu'on pense, ce qu'on vit peut-être aussi. Et on se retrouve ici, nous, la semaine prochaine, même lieu, même heure et même...